Bonjour Monsieur Besmaïn.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir, pour ne pas dire un devoir.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement?
Abdullah Besmaïn, journaliste de la presse écrite. J'ai fait l'essentiel de ma carrière entre l'opinion et le matin. J'ai pris ma retraite, je suis à la retraite bien sûr, du journal Le Matin avec des passages en presse hebdomadaire, dans La Vie économique et Le Temps du Maroc, Le Message de la Nation aussi. J'ai fait un peu de radio, puisqu'on est à la radio. Dans les années 70, je faisais une émission de poésie sur la chaîne internationale, sur la RTM. Mais c'est toujours dans le journalisme. Donc, je suis journaliste professionnel à la retraite et auteur de plusieurs ouvrages qui vont de la poésie au roman, dont les deux derniers, trois livres, sont issus de mon travail dans la presse.
L'écriture, la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient l'idée de ce livre et pourquoi l'écriture et la parole?
L'écriture, la parole, l'idée est très simple. C'était réunir, faire un choix des entretiens que j'ai réalisés durant ma carrière, qui quand même totalise une cinquantaine d'années pratiquement de journalisme culturel, et donc spécialisé. Avant ce livre, j'avais déjà publié dans les années 80 un livre d'entretien, de trois entretiens principaux qui avaient été publiés aussi dans la presse avec Abdel Haroui, Roland Barthes et Jean Moulineau. Donc, des décennies plus tard, si j'ose dire, le livre L'écriture, la parole est beaucoup plus élaboré et comporte beaucoup plus d'entretiens. Il doit y avoir, je pense, une cinquantaine d'entretiens. Il est divisé en deux parties. Donc la première partie, c'est l'écriture, la parole. Au fond, ça veut dire quoi? C'est des interviews que j'ai réalisées avec des penseurs. Le travail s'est fait sur les idées. Ce n'est pas des entretiens personnels ou de biographie, c'est des entretiens sur les pensées. Pourquoi l'écriture, la parole? Parce que au départ, il y a l'écriture. Ce sont des auteurs qui ont écrit, qui ont fait des livres. Dans un entretien, ils sont obligés de passer à la parole, c'est-à-dire d'expliquer, non plus en écrit, mais en parole, le fond de leur travail, de leur pensée. C'est de là que vient le titre. Et dans l'introduction de ce livre, comme c'est un travail de journaliste, comme c'est des entretiens, il y a un long avant-propos qui est consacré justement à l'entretien. Son titre, c'est L'entretien infidèle aux mots, fidèle à la pensée. Vous êtes journaliste, étudiant en journalisme. Vous savez, quand vous faites un entretien oralement, quand vous le transcrivez, vous ne pouvez pas reprendre des mots tels qu'ils ont été prononcés à chaque fois. Même la pensée, parfois, je ne dirais pas qu'elle est décousue, mais les gens, quand ils parlent, parfois, ils font des digressions, ils ont des idées qui viennent, qui partent. Et il y a un travail de réécriture qui se fait. Donc, les mots, on peut les changer, mais la pensée, on doit la garder. C'est-à-dire, le fond de la pensée ne doit pas être, j'allais dire, abîmé. Ne doit pas être, si vous voulez, transformé de quelque façon que ce soit. Voilà d'où vient le titre, l'écriture, la parole.
D'accord, monsieur. Monsieur, l'écriture est un domaine fascinant et constante évolution. Alors, quels sont les défis auxquels vous êtes confronté en tant qu'écrivain dans le domaine du livre aujourd'hui?
Vous savez, disons qu'il y a deux types d'écriture, pour schématiser, hein. Il y a l'écriture qui est de la fiction, c'est-à-dire la poésie, le roman, et il y a l'essai. Je ne vous parlerai pas de la fiction de l'essai, même si je suis auteur de trois recueils de poèmes, même s'ils ont été traduits en italien et publiés en livre en Italie. J'ai aussi un roman qui a été préfacé par Abdelkader el-Khatibi. Mais donc, il y a cette écriture-là. qui est toujours vivante. Les gens écrivent, il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup moins de poésie. C'est très compliqué, voyez? Mais le travail que je fais, j'ai publié, donc là, on est plutôt dans l'essai, voyez? Ça veut dire, dans l'essai, il y a une part de rationalité. Il n'y a pas, si j'ose dire, d'imprévu comme dans la fiction ou la poésie. La poésie et la fiction, vous avez une idée, vous la développez dans le sens que vous voulez, ça peut aboutir, ça peut ne pas aboutir. Alors que dans l'essai, et là on est dans un essai, c'est structuré. Vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche, vous ne pouvez qu'aller tout droit. Voyez? Donc si je peux me permettre, je ferai cette différenciation donc entre la fiction, qui est la littérature, et entre l'essai, dans lequel entre la catégorie entretien.
Quels sont les défis?
Allez, les défis pour un livre d'entretien que celui-là, c'est d'abord d'avoir fait des entretiens sur une longue période, et puis qu'il y ait suffisamment de cohérence pour pouvoir les réunir. Parce que dans ce livre, il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'entretiens. Ils sont réunis par thématique, si j'ose dire. Il y a une première thématique qui concerne plutôt la pensée, c'est-à-dire la raison, la linguistique, la psychanalyse. Il y a des entretiens de ce type-là. Il y a une deuxième partie qui est sur la littérature, donc la critique littéraire. La troisième partie, c'est sur la presse. Il y a une partie sur la presse où les gens qui sont interviewés, ce sont des grands, des noms connus dans les médias, dont par exemple l'ancien directeur général de la MAP, qui déjà dans les années 80 avait envie, si j'ose dire, de créer un pôle audiovisuel à la MAP. Voyez? Il y a aussi d'autres entretiens, il y a aussi une partie avec les éditeurs, le travail de l'édition. Et là, le premier entretien que j'avais réalisé dans ce sens-là, c'était par exemple peut-être en 87 avec Leïla Chaouni qui venait de lancer les éditions Le Fenech. Et il y a aussi des entretiens avec François Maspero, qui est très connu dans le milieu de l'édition, avec Michel Chodkiewicz, qui n'était pas très médiatisé, mais qui était le président-directeur général des éditions du Seuil, qui ont publié, bien sûr, beaucoup d'auteurs, mais qui ont publié aussi beaucoup de Marocains. Et d'ailleurs, dans l'entretien avec Maspero, Tahar Benjelloun était avec nous, qui était son auteur, et il était intervenu dans la discussion. Vous voyez? Il y a aussi donc des entretiens avec des éditeurs marocains. Il y a aussi Retnani, la croisée des chemins. Il y a aussi Hubbullah, d'Afrique-Orient. Il y a une partie. Il y a, donc la presse, j'en ai parlé. Il y a une partie un peu qui est société. C'est avec les agences de communication. Et là, dans cette partie-là, il y a une interview avec Fatima El-Mernissi qui avait été questionnée sur la participation de Aouita. Je ne sais pas si vous connaissez Aouita, vous êtes jeune, qui venait bien sûr d'être champion du monde. Et on avait fait réagir Fatima El-Mernissi sur cette question-là. Et elle disait que c'était bien. Et Aouita, vous savez, à l'époque, c'était le symbole. Et d'ailleurs, même le TNR, que vous connaissez maintenant, ma génération, quand le TNR avait été lancé, on ne l'appelait pas le TNR, on l'appelait Aouita. Vous voyez? Et il y a donc toutes ces dimensions-là. Et tout ça, comme je vous disais, ce n'est pas de la fiction. Là, il faut une organisation, il faut une structure. Même l'ordre des entretiens est fait de sorte. Selon l'importance du propos, selon parfois la date, il y a tout un travail qui est fait. La deuxième partie, c'est l'intervieweur interviewé. Bon, si vous voulez, professionnellement parlant, j'ai fait beaucoup d'interviews dans ma vie. Et comme je suis aussi auteur critique littéraire, j'ai publié un livre en critique littéraire. C'était déjà en 84 qui avait été consacré, d'un point de vue critique psychanalytique de la littérature, à l'œuvre de Rachid Boujdra, qui est très connu aussi. Donc j'ai été interviewé sur la littérature. Et dans la presse, je suis un journaliste polyvalent, mais surtout, je suis un journaliste culturel. j'ai toujours dirigé le supplément culturel de l'Opinion. Et c'est des années et des années. Et j'étais parmi les membres fondateurs d'une revue spécialisée culturelle en 1982. C'était Sindbad, avec un éditeur, avec des libraires, et qui a duré jusqu'en 89. Et c'est avec donc cette revue aussi, on avait organisé un colloque sur l'édition et la distribution du livre au Maroc. Et c'est à cette occasion, pendant ce colloque-là, qu'a été créé le Salon du Livre dans lequel nous nous trouvons maintenant. C'était là qu'Abd Ahmed Ben Issa avait annoncé. Il n'avait pas parlé de Salon du Livre, il avait dit « Nous allons créer une foire du livre ». Vous voyez ? Donc, si vous voulez, le travail que j'ai fait aussi, c'est un travail surtout de journaliste culturel. Bien sûr, j'ai fait des entretiens avec des hommes politiques, avec des diplomates, avec des ministres des Affaires étrangères, mais je ne les ai pas repris dans le livre. Pourquoi ? Parce que là, en général, ce ne sont pas des entretiens de réflexion, ce sont des entretiens plutôt d'actualité. Et comme vous le savez, vous êtes déjà un peu dans l'ambiance du journalisme, l'information est consommable, si j'ose dire, et puis elle est éphémère. Donc si vous faites parler un homme politique ou un ambassadeur, vous allez le faire parler sur une actualité précise. Et le lendemain, c'est déjà une autre actualité. Hein. Mais si vous faites parler, par exemple, un penseur sur qu'est-ce que ça veut dire l'idéologie, ben, c'est des pensées qui sont, je ne dirais pas éternelles, mais beaucoup plus durables qu'un entretien factuel. Et voilà donc le sens des entretiens. Donc, dans la deuxième partie, c'est les entretiens que j'ai donnés à des médias qui sont, il y a Tel Quel, Maroc Hebdo, il y a beaucoup de sujets, sur la littérature, la critique littéraire et sur le journalisme aussi.
D'accord, monsieur, vous avez dit le Salon du Livre. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre participation cette année à cette 28e édition du Salon ?
Cette année, ma participation est à deux niveaux. La première participation, je signe mon livre donc chez mon éditeur. Le livre vient de paraître, il n'y a même pas un mois. Donc, c'est une séance de dédicace, il n'y a rien de particulier chez mon éditeur. Et dimanche, je dois modérer, animer une table ronde sur, tenez-vous bien, le roman policier. Et à cette table ronde, il y aura deux auteurs. Un auteur qui est spécialiste en communication, c'est Bouchra Boulouiz, mais en même temps qui vient comme romancière. Elle a publié, je crois, 3 ou 4 romans. Et le deuxième intervenant, c'est Guillaume Jobin, qui est président de l'École supérieure de journalisme à Paris, qui vit au Maroc la plupart du temps et qui est auteur de plusieurs ouvrages. 3 ouvrages, je crois, en histoire. Un, Le Sultan, l'autre, Lyoté, un troisième sur Sa Majesté Mohamed VI. Et il a fait aussi 3 romans, mais lui, ce n'est pas des romans de policiers, c'est des romans d'espionnage. Donc là, je viens comme animateur de débat. C'est mon intervention cette année au Salon du Livre.
Et quelle est l'importance des salons internationaux de l'édition et du livre pour les éditeurs et les auteurs et les écrivains, bien sûr?
Ben, écoutez, les salons du livre sont faits surtout comme des espaces d'animation, mais au service de la promotion du livre.
Oui.
Quand le salon du livre avait été, quand la création du salon du livre a été créée par Mme Ben Issa, qui était à l'époque ministre de la Culture, il avait été créé dans le cadre du colloque qu'on avait organisé au sein de la revue avec le service culturel de l'ambassade de France. Et le titre, c'était quoi ? C'était l'édition, la distribution du livre au Maroc. Pourquoi le colloque avait été organisé ? On avait constaté que le livre marchait de moins en moins, que les structures nécessaires justement à la vente du livre, à la promotion, n'existait pratiquement pas, en dehors de Soche Presse, qui a toujours existé, et il n'y avait pas d'éditeur pratiquement marocain. le consommateur au Maroc acheter des livres du Moyen-Orient en arabe ou bien d'Europe, c'est-à-dire de France et de Belgique, surtout, et avec quelques éditeurs suisses. Donc il fallait comprendre un peu cette problématique et essayer de faire en sorte que le Marocain ne soit plus seulement consommateur de livres, mais également producteur, c'est-à-dire éditeur.
Oui.
Et c'est là qu'est née l'idée du salon, c'est là que le salon est venu, mais j'insiste sur ce fait encore, un salon du livre, c'est fait pour la promotion. J'ai eu l'occasion dans ma vie de journaliste professionnel
Oui.
de visiter des salons. J'ai vu, bien sûr, je connais le salon du livre de Paris. J'ai connu aussi le premier salon de Genève. C'est des espaces de promotion du livre. Hein. L'approche est, si vous voulez, de promotion. On est plutôt dans le marketing. On est comment rendre la vie visible. On est dans des tentatives de faire en sorte que l'édition soit visible. Et effectivement, si on prend l'histoire de l'édition au Maroc, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, beaucoup de livres se publient, ont été publiés, et il y a au moins, je parle en français, hein,
Oui.
pour les éditeurs francophones, il y a au moins trois grands éditeurs maintenant au Maroc qui sont de dimension internationale, qui sont de dimension mondiale. Je parle des éditeurs francophones. Ça doit exister certainement aussi en arabe, ça existe. Mais je vous dis par exemple, cet aspect-là n'existait pas dans les années 80. Il y avait bien sûr des éditeurs, mais ils n'avaient pas cette envergure. Maintenant, l'envergure qu'ont par exemple des éditeurs comme La Croisée des Chemins, qui est mon éditeur, ce n'est pas parce qu'il est mon éditeur que je le cite, Africorient, qui a aussi été mon éditeur, j'ai publié chez lui trois livres. Et le Fenech, chez qui je n'ai jamais publié. Ce sont trois éditeurs de dimension internationale qui ont un catalogue très fourni et qui font des livres de qualité. Bien sûr, vous me direz que comme dans tous les pays du monde, on ne peut pas faire 100% qualité. Certainement, disons qu'il y a certainement des déchets, il y a certainement des livres qui sont publiés qu'on peut discuter. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, à mon avis, c'est déjà la confection d'un catalogue. Et l'édition au Maroc, en une trentaine d'années ou un peu plus, a réussi à confectionner ce catalogue. Et depuis quelque temps, durant la période du Covid, j'avais participé à un débat avec un ancien ministre de la Culture, justement sur l'édition. Et l'idée maintenant, justement, c'est de s'acheminer vers ce qu'on appelle des champions nationaux en édition. Ce concept, si vous voulez, a cours en général dans l'industrie, dans les milieux industriels, dans les milieux économiques. On parle de champions nationaux, par exemple la banque. On dit qu'il faut une banque qui soit vraiment géante. Eh bien, ce concept est arrivé dans l'édition. On parle de faire des champions nationaux dans l'édition. Et c'est là où on peut effectivement comprendre le besoin de financer, de subventionner le livre, bien sûr jusqu'à un certain niveau. Maintenant, est-ce qu'il faut financer l'édition ou bien la promotion? Les éditeurs vous diront, moi je ne veux pas recevoir d'argent pour publier un livre. Ils vous diront, moi je veux trouver un circuit de distribution, d'achat. C'est ça qui m'intéresse. Et par exemple, on demande à l'État, effectivement, d'investir dans ce créneau, c'est-à-dire d'acheter des livres pour les bibliothèques, par exemple, municipales, d'acheter des livres, par exemple, pour les administrations, ce qui ne se fait pas, malheureusement, jusqu'à maintenant, sinon vraiment à des quantités minimes.
D'accord, monsieur, notre dernière question. Quels sont vos projets futurs en tant qu'écrivain?
Ah, vous savez, moi, je suis quelqu'un, je vais vous surprendre, qui ne fait pas de projet. Je travaille, je tête baissée. je travaille. Et puis quand je vois que quelque chose est mûr,
Oui.
je le propose. Bien sûr, maintenant, je travaille. Je peux vous dire sur quoi je travaille. J'ai au moins trois manuscrits qui sont achevés. Si vous trouvez un éditeur pour moi, vous me donnerez un coup. Mais le travail, c'est le livre sur lequel actuellement je suis en train de travailler. C'est bien sûr sur l'information. Je travaille sur un livre qui est quasiment achevé, je pense qu'il y a 80% achevé, sur la liberté de la presse, au sens générique du terme. Hein. Ce n'est pas au sens où, tiens, on lui a censuré un article, tiens, on a interdit tel journal. Non, ce n'est pas ça la liberté de la presse. C'est beaucoup plus important. Donc, c'est un livre sur lequel je travaille. Et donc, c'est sur cette relation entre la presse et le pouvoir. Vous êtes jeune, peut-être vous n'avez pas fait ce type de travail, mais quand vous travaillez sur la presse, c'est l'information.
Oui.
L'information a existé de tous les temps. Elle n'est pas nouvelle. Maintenant, bien sûr, il y a les médias qui changent. Il y a bien sûr les technologies qui évoluent et tout. Et mon travail commence avec les messagers. Et si vous êtes jeune, vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Excusez-moi de vous rappeler à chaque fois que vous êtes jeune. Hein? Vous avez certainement lu ou entendu quelquefois, ne tirez pas sur le messager. Ben, pour les journalistes, hein?
Oui.
C'est une expression qui, au moins, vous la trouverez une fois par jour dans le monde. Hein? Parce que, justement, le journaliste est ce nouveau messager. Il est un messager, mais qui utilise des techniques que n'avait pas le messager. Par exemple, Raqqas au Maroc. Raqqas était un messager. Lui, il faisait le chemin à pied. Hein. Il partait d'Agadir à Fès ou à Tanger ou à Oujda. C'était à travers monts et rivières. Hein. Mais c'était un messager. Il était porteur de nouvelles. Maintenant, on n'a plus besoin de faire ce chemin-là pour porter une nouvelle. Nous avons la radio, la télé.
Est-ce que votre nomination, c'est le
Berrah? Oui, le Berrah, j'en parle aussi dans mon livre. C'est le Berrah. Mais le Berrah, le messager, il est un peu plus large. Mais le Berrah, c'était déjà le concept municipal. Mais c'est le pouvoir qui communique avec la population. Donc, mon prochain livre, c'est cette problématique-là qui est très générale et qui n'est pas, comme vous avez dit, il y a plusieurs étapes. Par exemple, même aux États-Unis, ce qu'on appelait le Pony Express, c'était notre race à nous. Il entre dans cette catégorie-là de messager.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Bousmaïl. Merci.
C'est moi qui vous remercie.